Nous avions vu une fois Daniel, à l'époque où il était jeune, il avait une vingtaine d'années, et il était déporté à Babylone. Et nous avions vu que très tôt, Daniel, dès son arrivée, avait dû se positionner en tant que croyant et affirmer sa différence, parce qu'il voulait montrer qu'il était différent des autres en ne mangeant pas les mêmes mets qui étaient proposés aux déportés. Et ce matin, nous allons retrouver de nouveau Daniel, et nous allons le retrouver cette fois-ci à la fin de sa vie, puisque dans le passage que nous allons lire, Daniel a environ 80 ans. Ce passage, c'est un passage que nous connaissons bien, c'est celui de la fosse aux lions. Et ce matin, nous allons voir comment Daniel, au crépuscule de sa vie, comment il a traversé cette épreuve, quelle a été sa façon de la traverser et en quoi cela peut nous enseigner. Daniel trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et qui invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent alors de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a eu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé de cela. Il prit à cœur la défense de Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse, le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avant avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. » parce que j'ai été trouvé innocent devant toi, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et broyèrent leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur la terre, « Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. » C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des prodiges et des signes dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Nous retrouvons donc Daniel à un moment de l'histoire où Babylone chute. Cyrus le Perse est venu assiéger la ville, puis s'est retiré et grâce à un stratagème militaire a réussi à envahir la ville et il a réussi à s'en emparer. Alors, dans ces cas-là, que se passait-il ? Eh bien, les Perses avaient un très grand sens politique et quand ils trouvaient dans un poste, après une conquête, un homme qui avait déjà fait ses preuves de ses capacités dans le passé, eh bien, ils le maintenaient à sa place. C'était une habile façon de faciliter le passage d'une administration à une autre. Et cela explique pourquoi nous retrouvons Daniel, donc âgé à peu près de 80 ans à ce moment-là, occupant les mêmes fonctions à peu près qu'il occupait sous les monarques babyloniens. Très vite, Daniel allait faire preuve d'un esprit supérieur qui lui permettait de surpasser tous les autres responsables politiques du pays. Impressionné par un tel charisme, le roi Darius songea alors à l'établir au sommet de la hiérarchie politique, juste en dessous de lui. Apprenant cela, les chefs et les satrapes furent jaloux et ils envièrent Daniel. Il ne faut pas rêver, en 2500 ans, rien n'a changé dans le monde politique. Les hommes politiques étaient déjà à l'époque de Daniel assoiffés de pouvoir et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. Tant que Daniel exerçait la fonction qu'il avait, il était un adversaire parmi d'autres à combattre pour conquérir le pouvoir. Mais là, la situation était différente. Daniel menace l'avenir politique de chacun de ces responsables-là. En effet, lorsqu'on étudie le livre de Daniel dans son ensemble, le portrait de Daniel qui ressort est celui d'un homme au caractère fort, déterminé, difficile à influencer ou à manipuler. Darius, lui, était peut-être le roi, mais c'était aussi un homme qui avait des faiblesses, ainsi que le montre ce récit. Il est par exemple orgueilleux. Et les chefs et les satrapes savent que s'ils veulent obtenir quelque chose de lui, eh bien, ils peuvent le manipuler en jouant avec son orgueil. Mais avec Daniel au-dessus d'eux, désormais, ils ne seraient plus libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne seraient plus libres de gouverner le royaume comme ils l'entendaient. Pour empêcher donc Daniel d'accéder au plus haut poste politique après le roi, tous les responsables politiques se liguent. Pas seulement les chefs et les satrapes, mais les gouverneurs, tous. Ils se liguent tous contre Daniel pour chercher à le faire tomber, à faire tomber cet empêcheur de tourner en rond. La première réaction des chefs et des satrapes est de tenter de discréditer Daniel en le considérant comme l'un des leurs. Déjà à l'époque, la corruption existait et bien d'autres genres de ce genre. N'importe qui, en principe, se disent les chefs politiques, a un prix ou est capable de frauder, de mentir pour avoir le pouvoir. S'ils ont d'abord ce raisonnement et cette réaction, c'est parce qu'ils fonctionnent eux-mêmes déjà comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont beau chercher, eh bien Daniel est intègre et fidèle. Et les chefs politiques doivent bien se rendre compte que Daniel n'est pas comme eux. Et ils ont dû découvrir, s'ils ne l'ont pas déjà fait avant, au cours de leur tentative, que Daniel était différent d'eux tout simplement parce qu'il était un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vivait selon certaines valeurs, selon certaines normes bien précises et complètement différentes des leurs. Devant ce constat, les chefs politiques se rendent compte que le seul moyen d'utiliser, de faire tomber Daniel, est d'utiliser cette même différence de Daniel pour le faire tomber. Ils ont dû donc comprendre que quoi qu'il arriverait, Daniel était tellement attaché à son Dieu et tellement désireux de lui obéir qu'il préférerait mourir que de lui désobéir. Et ayant connaissance du premier commandement, les responsables politiques s'en vont trouver le roi, espérant bien ainsi faire mourir Daniel et s'en débarrasser. La situation dans laquelle se trouve alors Daniel ne vous rappelle-t-elle rien ? N'avez-vous jamais eu affaire à des personnes qui vous enviaient, qui étaient jalouses de vous, d'autant plus lorsque vous réussissiez tout ce que vous entrepreniez par la grâce de Dieu ? N'avez-vous jamais eu affaire à des personnes qui savent que vous êtes chrétien et qui cherchent à se servir de votre foi, de vos valeurs, de vos normes chrétiennes pour tenter de vous faire chuter, tomber ? N'avez-vous jamais eu une telle épreuve ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et même si vous ne l'avez peut-être jamais eu, vous avez certainement rencontré déjà d'autres épreuves, tout autant douloureuses. Et même si vous ne vous reconnaissez pas dans cette épreuve un peu particulière de Daniel, puisqu'elle concerne un peu le pouvoir politique, on va dire, eh bien, on peut quand même s'identifier à Daniel, parce que comme nous, il a rencontré des épreuves dans sa vie, dont celle-ci. Alors nous allons voir de quelle façon Daniel a pu réagir face à cette épreuve. Voilà donc que les chefs et les satrapes ont réussi à faire signer au roi un décret tel qu'il doit en principe conduire à la mort inéluctable de Daniel. Face à une telle épreuve, une telle perspective, comment Daniel va donc réagir ? Eh bien, nous allons voir que dans l'épreuve, nous pouvons avoir des bonnes façons de réagir et des mauvaises façons. Des mauvaises façons que nous sommes appelés à identifier et à écarter. Une première façon de réagir, eh bien, c'est la colère. Une première réaction consiste, face à l'épreuve, consiste à refuser celle-ci. Lorsque Daniel apprit que le décret avait été signé, il aurait pu se mettre en colère et râler contre Dieu. En refusant l'épreuve, il aurait pu prier ainsi : Seigneur, ça n'est pas juste ce qui m'arrive. J'ai 80 ans, je t'ai toujours servi de mon mieux, j'ai toujours cherché à rester intègre, sans reproche devant toi. J'ai parfois eu du mal, mais dans l'ensemble, je crois t'avoir été fidèle. Et voilà la récompense que tu me donnes, devoir subir l'injustice parce que je suis fidèle et envisager de mourir. Non, Seigneur, ça n'est vraiment pas juste. N'avez-vous jamais eu cette réaction-là, quand une épreuve survenait dans votre vie ? Ça m'est déjà arrivé d'être en colère contre Dieu. Je faisais tout pour lui être agréable, je pensais qu'en retour, il allait me bénir, et tout d'un coup, une tuile me tombait sur la tête. Et là, je ne comprenais plus ce que Dieu faisait, à quoi il jouait, et alors je râlais contre lui. Mais Daniel, lui, n'a pas réagi ainsi face à l'épreuve. Il n'a pas dit un mot de protestation. Il aurait pu, il était en droit de le faire, en droit d'attendre la bénédiction de Dieu, lui qui avait été particulièrement fidèle envers Dieu durant toutes ces années. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré accepter l'épreuve, parce qu'il était réaliste. Et c'est ce qui nous manque bien souvent quand une épreuve survient. Bien souvent, quand nous nous tournons vers le Seigneur, eh bien, nous pensons qu'en devenant chrétiens, eh bien, ça y est, tous nos ennuis, tous nos soucis vont disparaître et que tout va rouler sans problème. Lorsqu'on est chrétien, par exemple, n'est-on pas rempli de paix et de joie ? Et puis, même si nous avons entendu que non, eh bien, des fois, quand on est chrétien, il y a quand même des épreuves à traverser. Nous retenons tout aussi facilement que plus nous faisons et cherchons à faire la volonté de Dieu, plus il est censé nous bénir. Donc plus nous essayons de lui être agréable, et moins nous aurons d'épreuves. Alors voilà un faux raisonnement à démonter, parce que le message de la Bible ne dit jamais une telle chose. Oui, c'est vrai que le chrétien, à la différence des autres personnes qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ, ont une joie et une paix profondes, différentes de celles qu'on trouve dans le monde. Oui, c'est vrai que plus on est agréable à Dieu, plus il peut nous bénir. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous enlève toute épreuve, toute difficulté dans la vie. Avoir un tel raisonnement, c'est se comporter encore comme un enfant. Un enfant qui se dit que tant qu'il fera ce que ses parents vont lui dire de faire, eh bien ses parents vont lui le laisser tranquille et vont lui donner des cadeaux. Alors qu'en fait, qu'un enfant essaye le plus possible d'être sage ou non pour avoir la paix et des cadeaux, eh bien il devra quand même faire des choses qui sont désagréables à ses yeux, comme ranger sa chambre ou bien aller à l'école. Soyons réalistes dans la vie comme le fut Daniel. Ne rêvons pas. Toute notre vie, nous rencontrerons des épreuves, des petites ou des grandes. Et toute notre attitude envers Dieu ne changera rien à cette réalité. D'ailleurs, nous avons été prévenus par le Seigneur lui-même en Matthieu 10, par exemple, où il nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix et que ceux qui veulent le suivre n'auront pas de repos parce que lui-même n'en a pas eu. Une deuxième attitude face à l'épreuve est la résignation. Vous me direz, d'accord, Daniel ne s'est pas mis en colère contre Dieu face à l'épreuve qui lui arrivait, mais son attitude dans ce texte nous montre qu'en fait, il avait l'air résigné. Daniel aurait pu en effet se dire, encore une épreuve. Toute ma vie n'a été qu'épreuve. Alors une de plus ou une de moins, quelle importance? J'ai 80 ans, j'en ai assez de lutter. Si le Seigneur veut me reprendre, eh bien qu'il me reprenne. Lorsque nous réalisons dans notre vie que ce que le Seigneur nous dit, par exemple en Matthieu 10, c'est vrai, et que notre vie est effectivement une vie où les difficultés seront toujours là, là où nous espérerions qu'elles se passeraient mieux qu'avant de rencontrer le Seigneur, eh bien nous pouvons être découragés. Nous pouvons nous dire que de toute façon, eh bien, c'est la fatalité, c'est comme ça que la vie chrétienne fonctionne. Peut-être lors des premières épreuves, nous avons crié contre Dieu notre colère. Et puis au fil du temps, en voyant les épreuves se succéder les unes aux autres, nous nous sommes résignés à accepter les épreuves, à les subir comme nous pouvons subir d'autres choses. Dans ces cas-là, l'abattement et la dépression nous guettent tel Élie, vous vous en souvenez, dans la caverne et dans le désert avant. Et nous pouvons même être amenés à être abattus à l'intérieur, mais à l'extérieur, eh bien, nous pouvons faire passer notre résignation par une attitude très spirituelle, consistant en un soi-disant abandon à Dieu, en une soi-disant soumission totale à Dieu et à sa volonté. Si c'est la volonté de Dieu, eh bien que ça se passe ainsi. Là encore, Daniel n'a pas réagi ainsi, me semble-t-il. Il n'est pas resté passif devant l'épreuve. Il n'est pas rentré chez lui, en fermant les volets et en restant dans le noir, priant tous les jours, mais résigné, sans paix ni joie. Non, Daniel est donc un réaliste. Il sait que toute sa vie, il a eu et il aura peut-être encore des épreuves. Mais jusqu'ici, Dieu a toujours été fidèle. Pourquoi ne le serait-il pas encore cette fois-ci? Surtout que Daniel est sans reproche. Puisque son nom, Daniel, c'est « Dieu est mon juge ». Eh bien, Dieu sera son juge encore cette fois. D'ailleurs, pour Daniel, il y a des choses beaucoup plus importantes dans ce moment-là de sa vie que ce décret et ses conséquences. Pour l'instant, tout ce que Daniel voit, en effet, dans ce moment-là de sa vie, eh bien, c'est le sort d'Israël. Ainsi que nous l'apprend le chapitre 9 de Daniel un peu plus tard, Daniel est en train de lire dans cette période-là de sa vie, le livre de Jérémie. Et c'est environ dans ce moment-là qu'il fera la fameuse prière du chapitre 9 où il priera Dieu pour faire revenir le peuple d'Israël sur sa terre. Ainsi, durant tout ce temps, et sa façon de prier, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem le montrent, eh bien, durant tout ce temps, Daniel est préoccupé par le sort des autres et pas par sa propre vie. Sa vie, il l'a donnée très jeune à Dieu. Il sait désormais, comme l'apôtre Paul le dira lui-même, qu'elle ne lui appartient plus désormais. Donc peu importe ce qui peut lui arriver, s'il est victime d'injustice, Dieu lui-même aussi sera victime d'injustice, parce que c'est avec son serviteur qu'on est injuste. Alors si les chefs politiques veulent s'attaquer à Dieu, eh bien c'est leur problème. Daniel, lui, a d'autres sujets de préoccupation. Ainsi, lorsque nous sommes dans l'épreuve, apprenons à la relativiser et à nous en détacher. Ne nions pas son existence, mesurons-en toutes les implications comme le fit Daniel. Mais ne soyons pas résignés et ne laissons pas l'épreuve et l'introspection débridée qu'elle entraîne trop souvent, eh bien nous couper toute force pour le servir et pour servir les autres. Cette épreuve est là, mais elle finira bien par cesser un jour. Nous en avons déjà eu d'autres avant, nous en aurons peut-être encore d'autres après. Mais l'occasion qui se présente à nous aujourd'hui de servir Dieu et de servir les autres, eh bien, elle ne se représentera peut-être plus. Parce qu'en définitive, ce n'est pas contre la chair et contre le sang qui nous éprouve que nous avons à lutter, mais c'est contre les forces du mal. Ne soyons donc pas résignés face à l'épreuve, mais actifs, et actifs pour la continuation de la construction du royaume de Dieu. Comme Daniel continua de travailler pour Dieu, en luttant contre l'ennemi par la prière, durant son épreuve. Une troisième façon de réagir dans l'épreuve, c'est les compromis. Bien souvent, lorsqu'une épreuve survient, après la colère et la résignation, nous réagissons et nous tentons de faire face à l'épreuve en faisant des compromis. Daniel aussi aurait pu faire des compromis quand l'épreuve est arrivée. Il aurait pu faire, par exemple, semblant de choisir d'obéir au décret du roi tout en continuant à prier Dieu secrètement à voix basse, en fermant les volets sans que personne ne le sache. Ainsi, il aurait été sûr de ne pas perdre sa vie. N'était-ce pas là encore une attitude que nous avons facilement tendance à adopter lorsque nous sommes éprouvés? Nous cherchons en fait à trouver un moyen pour que Dieu et tous ceux qui sont impliqués dans l'épreuve, eh bien, soient satisfaits. Ainsi, par exemple, si dans notre travail, on nous demande de ne pas être intègre, et que si, en restant intègre, nous avons peur de perdre notre travail et de ne pas en retrouver un, eh bien alors nous allons tâcher de trouver un compromis, une solution pour être conciliant à la fois avec la volonté de Dieu et celle de notre patron. Nous allons donc tâcher de surmonter cette épreuve par nos propres forces. Mais Daniel, lui, n'a pas réagi ainsi. Il n'a pas fait de compromis. Il n'est pas allé voir, par exemple, les chefs et les satrapes en leur disant « Écoutez, on va faire un deal. Vous arrêtez la publication de ce décret et moi, je vous promets, je ne me mets pas à votre tête. » Non, Daniel n'a pas fait cette démarche. Daniel était fidèle. Il avait un attachement pour Dieu plein et entier. Et nous avons bien du mal, moi le premier, à être fidèle comme Daniel. Plus j'essaye de l'être, et moins je le suis en fait. Et plus je fais de compromis dans ma vie, et plus je m'attache à d'autres dieux qu'au Seigneur. Mais si Daniel n'a pas fait de compromis, c'est parce qu'il était libre. Il était libre des liens de ce monde. Daniel peut tout perdre dans cette épreuve, même sa vie. Peu importe, il appartient à Dieu. De toute façon, et tout ce qui lui appartient, appartient à Dieu. Et lorsque nous sommes éprouvés, eh bien, nous voyons surtout ce que nous risquons de perdre au travers de cette épreuve. Un travail, une réputation, une bonne santé. Nous cessons de considérer tout ce que nous avons en Christ par sa grâce et nous cessons d'être reconnaissants. Juste avant que nous nous marions, je travaillais pour France Télécom et puis j'ai dû arrêter et 4 mois de chômage plein ont suivi à cette époque-là. Et durant cette période-là, j'ai eu une conversation avec une amie qui me disait « C'est drôle parce que tu as tout pour être heureux en ce moment, tu vas te marier, tout ça, et il te manque une seule chose, un travail. Comme si en fait Dieu, quelque part, permettait qu'il te manque cette chose-là pour que tu continues de t'accrocher à lui. » Le plus important était là. Le plus important était là. Je pouvais peut-être ne plus avoir de travail, mais j'étais aimé de Dieu et il était là pour moi. Je continuais d'être en Christ et d'être aimé par lui. C'est ainsi qu'en Romains 8, après avoir dit que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire à venir, eh bien l'apôtre Paul continue en disant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et que quelles que soient les épreuves qui peuvent nous arriver, injustice, tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, danger, épée, aucune d'elles ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pouvons-nous accepter, comme l'apôtre Paul, que dans notre vie, seule la grâce de Dieu, seul son amour nous suffit? Pour Daniel, cela lui suffisait. Une dernière réaction face à l'épreuve, c'est l'impatience. Et c'est peut-être la plus difficile à ne pas avoir face à l'épreuve. En effet, lorsque Daniel a appris que le décret avait été signé, il a su ne pas être résigné, ne pas se mettre en colère et ne pas faire de compromis. Il décide malgré tout donc de prier ouvertement, espérant en Dieu la délivrance. Seulement voilà que les chefs politiques le trouvent en train de prier et qu'ils l'arrêtent. Daniel aurait pu se dire « Là, ça va trop loin, pourquoi Dieu n'intervient-il pas ?»« Ah, mais voilà, le roi ne semble pas décidé à le jeter dans la fosse au lion. » Daniel aurait pu alors prier, par exemple Dieu, en disant « Change le cœur de Darius, afin qu'il ne m'envoie pas dans la fosse. » Ah oui, mais voilà que finalement Darius décide de le mettre dans la fosse. Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas? Pourquoi n'es-tu pas intervenu? Pourquoi n'as-tu pas entendu ma prière? Tu dis que lorsqu'on t'adresse une prière, eh bien tu nous entends et tu nous réponds. Je t'ai prié pour que tu changes de cœur de Darius et qu'il ne m'envoie pas dans la fosse. Ce que toi seul pouvais véritablement faire, et voilà qu'il m'envoie quand même dans la fosse. Vraiment, je ne te comprends plus, Seigneur. À quoi joues-tu? Et puis, à la place de Daniel, j'aurais été tenté, à chacune des différentes phases de ce texte, eh bien, de me défendre, voyant que Dieu n'intervient pas. Lorsque les chefs politiques sont venus l'arrêter, Daniel aurait pu se défendre, avec des armes ou éventuellement avec des mots. Bon, peut-être qu'il n'en avait pas les possibilités. Mais devant le roi, Daniel aussi aurait pu se défendre. Mais il aurait pu essayer de faire fléchir le roi, mais il ne l'a pas fait non plus. Il n'a pas cherché à mentionner son innocence. Et lorsque nous sommes nous-mêmes victimes d'injustice lors d'une épreuve, n'avons-nous pas tendance à chercher à faire justice aussi par nous-mêmes? Ou bien n'avons-nous pas tendance, voyant que Dieu n'intervient pas, à chercher à faire cesser par nos propres moyens l'épreuve que nous traversons? Il n'y a rien de plus terrible que le silence de Dieu lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'intervient pas et comment il peut nous laisser souffrir de la sorte. Et en général, nous ne nous gênons pas pour le lui faire remarquer. Et puis la souffrance étant telle, l'impatience nous gagne au point que nous cherchons à triompher de l'épreuve en usant de nos propres recettes. D'abord, nous cherchons à faire les chrétiens spirituels dans l'épreuve, ou bien encore, puisque Dieu ne bouge pas, eh bien alors nous allons chercher à le faire bouger nous-mêmes, en nous engageant dans une direction, déclarant que c'est la volonté de Dieu, mais espérant secrètement que Dieu va enfin intervenir, soit en fermant les portes, soit en les ouvrant. Mais à aucun moment, Daniel, lui, n'a manifesté de l'impatience, ou il n'a cherché à obliger Dieu à intervenir en tentant de se défendre, par exemple. Et nous savons, grâce au chapitre 11 des Hébreux, que dans cette épreuve, Daniel fit face par la foi, et que c'est par la foi qu'il a fermé ainsi la gueule des lions. D'abord, Daniel a gardé le silence depuis son arrestation jusqu'au moment où il est tombé dans la fosse. Alors, ça m'a rappelé le psaume 37. Je ne sais pas si Daniel l'avait lu, mais dans le psaume 37, il nous est dit « Ne t'irrite pas contre les méchants ». N'envie pas ceux qui font le mal parce qu'ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Je ne sais pas si Daniel a eu l'occasion de lire ce psaume, donc, mais c'est comme si ce psaume parlait, en fait, de son attitude lors de cette épreuve. Lorsque nous aurons vidé nos pensées, notre cœur et nos actions de notre colère, de notre résignation, de notre impatience, lorsque nous serons à bout de mots, à bout d'arguments dans nos prières et que nous ne pourrons faire plus qu'une seule chose, nous taire dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, alors enfin le Seigneur aura toute la place pour agir. En même temps, joignons à notre silence notre espérance en Dieu. Choisissons de faire face à l'épreuve par la foi. Bien souvent, les épreuves que nous traversons deviennent tellement le centre de notre vie que nous ne voyons que les difficultés du moment présent avec ses douleurs. Nous n'arrivons pas à avoir le regard de la foi qui voit plus loin dans le futur. Mais Daniel, lui, avait la foi en Dieu. Pour reprendre les termes de Hébreux 11, eh bien Daniel espérait que Dieu le délivrerait de l'épreuve de la fosse au lion. Il en était fermement assuré, bien qu'il n'ait pas vu, pourtant lui, l'un des plus grands prophètes, l'espérance de qu'il n'ait vu cette délivrance. Daniel n'a pas porté son regard sur les circonstances défavorables qui l'entouraient, sur les lions qui se léchaient d'avance les babines en sachant que Daniel allait bientôt le rejoindre. Non, il a porté et il n'a cessé de décrocher son regard de Dieu, comme nous sommes appelés à le faire. L'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Alors si nous espérons en lui, par la foi, il nous remplira de cette assurance ferme qu'il nous délivrera de toute épreuve. Dernière chose concernant l'impatience dans l'épreuve, Eh bien, des fois, nous avons l'impression que dans certaines épreuves, Dieu s'est éloigné très très loin et qu'il ne s'intéresse plus à nous. Mais l'histoire de Daniel nous montre un formidable encouragement. Au plus fort de l'épreuve, quand Daniel est dans la fosse avec les lions, eh bien Dieu est avec lui et le délivre. Et ceci nous montre que Dieu reste Dieu où que nous soyons et quoi qu'il se passe, et que notre relation avec lui peut durer et durera toujours. Dieu est là pour partager tout avec nous, ses enfants, que ce soit nos bons moments ou nos difficultés. Parfois Dieu est silencieux lors de nos épreuves, mais ça ne veut pas dire qu'il cesse d'être présent à nos côtés. Dieu nous aime et il veut tout partager avec nous parce qu'il nous aime. Il nous a promis qu'il ne nous laisserait pas, qu'il ne nous abandonnerait pas, comme Michel ne nous l'a rappelé tout à l'heure. Cette promesse est-elle valable seulement pour les bons moments ou est-elle inconditionnelle pour les bons et les mauvais moments? Elle est bien sûr inconditionnelle. Alors, lorsque nous la lisons ou lorsque nous lisons une promesse de ce type, inconditionnelle, saisissons-la non avec l'émotion qui fait du bien avec le, sur le moment, mais saisissons-la par la foi, étant fermement assurés que Dieu est toujours avec nous pour l'éternité. La preuve en est, c'est que son Saint-Esprit habite en nous si nous sommes à Christ. Alors en conclusion, je sais que pour vous m'écouter c'est aussi quelque part une épreuve, j'essaierai de finir brièvement. Vous pourrez me dire pour terminer, oui tout cela est très bien, mais Jésus-Christ c'était Dieu et Daniel fut un homme de Dieu exceptionnel, mais moi je n'arriverai jamais à réagir comme Daniel l'a fait dans l'épreuve, c'est au-dessus de mes forces. Alors je voudrais vous encourager en terminant, non, il n'y a pas que Daniel ou d'autres hommes de foi exceptionnels qu'on en trouve dans la Bible. Non, il n'y a pas qu'à des hommes comme ça qu'il est donné de réagir dans l'épreuve ainsi. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être des Daniel, mais ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à être des pas grand-chose dans notre vie. Nous pouvons aussi surmonter des épreuves dans notre vie en réagissant comme Daniel. Bien sûr, peut-être plus on débute dans la vie chrétienne, et plus cela est difficile, quoique... Et puis, chaque épreuve est différente d'une autre, et nous savons mieux traverser certaines difficultés que d'autres. Mais la même force qui habitait Daniel, et qui lui a permis de triompher de la force de la fosse lion, habite aussi en nous. Cette force, c'est notre amour pour Dieu. Daniel avait alors 80 ans, comme nous l'avons remarqué, et en 80 ans, il a parfois été un homme de Dieu exemplaire. Mais ce que la Bible nous dit aussi d'une manière générale et de façon sous-entendue, eh bien ce que Daniel a dû aussi avoir dans sa vie des moments de faiblesse, et qu'il a dû chuter devant Dieu. Il n'était pas parfait, parce que seul Jésus-Christ l'a été. Seul Jésus-Christ a été parfait sans péché. Ainsi, en 80 ans, avec des hauts et avec des bas, eh bien Daniel a appris à connaître l'amour de Dieu pour lui et il a appris à aimer Dieu. En retour, au fil des épreuves, triomphant de chacune au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Ainsi, au fil du temps et des épreuves, nous pouvons nous aussi apprendre à connaître Dieu, à lui faire confiance, à marcher avec lui, quoi qu'il arrive. Et épreuve après épreuve, nous mesurerons combien Dieu est grand et combien il nous aime. Ainsi que le dit l'apôtre Paul en Romains 5, « Lorsque nous aurons persévéré dans une épreuve, nous aurons la victoire dans cette épreuve, par la grâce de Dieu. Ainsi, lorsque l'épreuve suivante surviendra, eh bien nous mettrons notre espérance en Dieu parce que nous l'avons déjà vu nous délivrer lors de l'épreuve précédente. Et nous aurons ainsi mesuré combien Dieu était bon avec nous et combien il nous aimait. Et dans chaque épreuve, nous serons ainsi animés de cette espérance reposant sur cette ferme assurance que Dieu nous aime, que c'est ce qui est suffisant et que personne ne pourra nous séparer de son amour. Alors, ne craignons pas l'épreuve, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Ainsi, lorsque nous apprêtons à faire face à l'épreuve, déployons la bannière de l'amour que nous avons pour Dieu, et qui a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et animés de cet amour qui ne périt pas, nous sortirons de toutes les épreuves qui seront sur notre chemin. Amen.